Bonjour à tous.
Bonjour.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année et que la paix de notre Dieu puisse vous accompagner jour après jour. La paix, justement, parlons-en ce matin. Nous sortons de la période de Noël où nous nous souvenons que Jésus, le Fils de Dieu, a été mis au monde par Marie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc 2, verset 14. Vous l'avez sûrement lu ou entendu plusieurs fois ces derniers temps. Pour notre méditation de ce matin, dans un premier temps, nous constaterons que Jésus a vécu à une période où globalement et localement, le monde de l'époque était en paix. Dans un deuxième temps, nous essaierons de comprendre la nature de la paix amenée par Jésus, selon le plan de notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dans une troisième partie, nous verrons à qui s'adresse cette offre de paix, afin que nous puissions nous l'approprier et peut-être essayer de l'expérimenter dans notre quotidien dès le début de cette nouvelle année. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de conflits, beaucoup de violences, des victoires et des défaites pour Israël et les peuples voisins. Lisons par exemple 1 Chronique 22, versets 6 à 10. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » Aux yeux de Dieu, le grand roi David, vainqueur de Goliath, successeur de Saül, conquérant et prospère, n'a pas les faveurs de l'Éternel pour la construction de son temple. Trop de sang versé au cours des conflits avec les peuples voisins d'Israël. À l'origine, Dieu a créé les cieux et la terre, et au premier chapitre du livre de la Genèse, au verset 31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Toute la création vivait en harmonie, mais l'homme et la femme étaient libres de ne pas consommer le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Vous connaissez la suite. C'est ainsi que, en Genèse 6, versets 5 et 6, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Après le déluge, les descendants de Noé cherchent à s'affranchir de la présence de Dieu par la construction de la fameuse tour de Babel. Genèse 11, verset 8. Et l'Éternel intervient. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Ce dernier événement de l'histoire des hommes sur terre est le point culminant de la chute. À partir de ce moment, en réponse à un monde brisé par la chute, Dieu affiche son intention de guérir, de restaurer ce qui est cassé. Ce projet de Dieu est vaste et concerne tous les aspects de la création. Nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, versets 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Nous voilà recentrés sur notre sujet, paix sur la terre. Étonnamment, Jésus, le Fils de Dieu, a vécu au premier siècle dans un monde en paix. Dans le Nouveau Testament, aucun récit de conflit armé. Néanmoins, on perçoit nettement des tensions sociales dues à l'autorité religieuse toute-puissante qui collabore sans état d'âme avec l'occupant romain. Et oui, c'est la paix de Rome, pour les latinistes et les historiens, la Pax Romana. L'empereur César Auguste a imposé la paix de Rome dans tout l'Empire qui s'étend sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord. Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de cette époque, en dehors de la lecture du Nouveau Testament, un vieux film hollywoodien, Ben-Hur, décrit assez bien l'ambiance de cette paix romaine imposée par le glaive et maintenue par une armée disciplinée et efficace. C'est un film qui dure près de 4 heures, et puis il est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Mais ça met vraiment dans l'ambiance. Quoi. C'est tout. Ça parle de Jésus un petit peu en filigrane au moment où Ben-Hur, quand il part aux galères, il reçoit de l'eau. Et il y a une image de la crucifixion également. Mais c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance. Hein. Cette paix est faite de cruauté et de domination. Les peuples soumis doivent rendre un culte à César et payer des impôts. En échange, le commerce et les échanges sont stimulés. Une certaine prospérité se développe, mais au profit de Rome et de ceux qui dirigent l'Empire. Ce contexte historique nous est d'autre part assez familier. L'histoire de Rome est enseignée à l'école. Nous avons tous eu l'occasion de lire l'un ou l'autre des albums d'Astérix de Gaulois. Les peuples soumis, par la force des armées de César, jouissent de la paix romaine imposée et cruelle. Pour exemple, Hérode, le gouverneur de la Palestine, agréé par les Romains, n'a pas hésité à ordonner le massacre des nouveau-nés dans les mois qui ont suivi la naissance de Jésus. Néanmoins, Rome était en conflit le long de ses frontières pour repousser et éloigner les peuples susceptibles de perturber cette paix au cœur de l'Empire. Nous pouvons faire un parallèle avec notre époque contemporaine. Nous vivons, en apparence, en paix, grâce au déploiement des forces de sécurité dans nos pays européens, avec son cortège de contrôles de toutes sortes et de restrictions de liberté dues à la déclaration d'état d'urgence. L'armée française est déployée loin de nos frontières et les combats violents et meurtriers frappent la Syrie et l'Irak. Autour de nous, la paix apparente qui nous permet de continuer à faire nos petites affaires, est préservée. La paix romaine est comme la nôtre aujourd'hui. Elle a une composante militaire, aux ordres du pouvoir politique, dans le but de favoriser le développement économique et qui profite essentiellement à tous ceux qui n'ont aucun scrupule quant à la justice et à l'équité. C'est dans ce contexte que Jésus naquit et vécut. La paix existait déjà. Les gens savaient ce qu'était la paix, comment la garantir. Par conséquent, parler de paix en d'autres termes, procurer la paix par d'autres moyens, n'était pas une mince tâche. Paix sur la terre avec la naissance de Jésus. La paix selon la parole de Dieu, le shalom de la Bible. Jésus de Nazareth était héritier d'une autre notion de paix que celle de la Pax Romana. Cette conception de la paix avait déjà une longue histoire enracinée dans la vie et dans les écrits de son peuple. Il s'agit du shalom biblique. La plupart des langues occidentales traduisent le terme hébreu shalom par le mot paix. Cependant, notre idée de ce qu'est la paix est souvent plus influencée par le terme romain pax que par la notion biblique de shalom. Pax est simplement l'absence de conflit acquise par la conquête militaire et maintenue par l'oppression économique. C'est une situation qui profite à un certain nombre de privilégiés. Shalom évoque une paix différente, caractérisée par au moins 3 éléments importants. D'abord, Shalom, dans l'Ancien Testament, signifie bien-être matériel et même prospérité. Cette paix est marquée par la présence du bien-être physique et par l'absence de menaces qui mettent en question ce bien-être, telles que la guerre, la maladie, la famine. Une société qui jouit du shalom n'est pas seulement une société sans conflit ouvert, mais une société où les gens sont bien et heureux. Un tel bien-être était bien sûr le privilège de la minorité qui profitait de la paix romaine, mais il existe un deuxième aspect de la notion biblique qui illustre une différence majeure entre Pax et Shalom. Si Shalom est bien-être et prospérité, cela ne concerne pas seulement quelques privilégiés. C'est une prospérité accompagnée de justice et qui ne s'atteint pas par l'exploitation et l'oppression. Par exemple, dans Ésaïe 32, versets 16 et 17, il est dit « Le droit habitera dans le désert et dans le verger s'établira la justice. Le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité pour toujours. » Alors que la paix et la justice romaine se fondaient sur l'injustice et l'oppression, les prophètes d'Israël affirmaient que la paix ne saurait venir tant que régnerait l'injustice parmi le peuple. Pour les prophètes, la réponse de Dieu aux injustices commises par le peuple est le jugement et non la paix. Là où est l'oppression, pas de shalom. Troisièmement, dans l'Ancien Testament, shalom avait à voir avec l'honnêteté et la franchise. Le psaume 34, versets 14 et 15, shalom est mis en contraste avec le mensonge. Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances. Évite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la. En Zacharie 8, verset 16, le terme shalom est utilisé dans le sens de prononcer des jugements véritiques qui rétablissent la paix. Shalom signifie un système pénal honnête et sans fraude. Il est écrit « Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Et donc, la paix, selon la parole de Dieu, c'est le shalom biblique. C'est tout un mode de vie empreint de bien-être matériel, de prospérité, d'absence de guerre, de maladie et de famine, accompagné de justice, sans exploitation, sans oppression, de vérité et de droit, impartial et incorruptible. C'est quand même une autre dimension de la notion de paix. Nous arrivons à notre troisième partie. Cette paix de Dieu, le shalom biblique, à qui est-elle destinée ? Nous avons déjà lu dans l'Épître aux Colossiens que Dieu cherche à tout réconcilier, par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux. Dans nos discussions avec nos contemporains qui ne sont pas convaincus de la réalité de Dieu, nous entendons souvent que si Dieu existait, pourquoi la souffrance, pourquoi la violence, pourquoi la mort ? Si nous ne sommes pas convaincus que Dieu a un projet de rédemption et de paix pour toute l'humanité, ces questions nous déstabilisent. Et lorsque nous prions pour la paix dans le monde et que nous ne sommes pas exaucés, notre foi peut vaciller. Soyons convaincus ce matin que Dieu a un projet pour l'humanité. Ce projet avance. La venue de Jésus et son enseignement est une grande étape dans le déroulement chronologique du projet divin de restauration de sa création. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous invitons nos interlocuteurs à la conversion. Tu es pécheur ? Christ est mort pour toi, repends-toi, accepte-le comme sauveur et tu seras sauvé pour l'éternité. Cela est tout à fait biblique, mais pas assez biblique. Je n'aurais pas osé affirmer cela par moi-même, mais je cite Neil Blau, professeur de théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine et directeur du Centre Mélanie de Paris. Je me suis pas mal inspiré dans un texte de sa part, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dans notre compréhension protestante évangélique, nous avons tendance à réduire le texte biblique à une réconciliation entre Dieu et l'individu. Par notre éducation contemporaine occidentale, L'individu, l'individualisme, l'ego, l'égocentrisme nous sont très familiers. Je pense, donc je suis. Mais dans la Bible, Dieu s'adresse plus souvent à un groupe de personnes, à l'ensemble des nations, à l'ensemble de l'humanité. Si chacun a sa propre compréhension du projet de Dieu pour les hommes, le shalom biblique n'a aucune chance de se concrétiser. Lisons dans Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et nous lisons également dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Remarquons que le mot « nous » se trouve 10 fois alors que « moi », « je », « tu » ou « toi » sont parfaitement absents. En réponse à un monde brisé par la chute, Dieu a l'intention de guérir, de restaurer ce qui est cassé. Ce projet de Dieu est vaste. Il ne concerne pas seulement l'individu dans sa sphère spirituelle, mais concerne tous les aspects de la création et de notre condition humaine. Nous vivons une époque un peu semblable à l'époque de Jésus, à l'époque où Jésus a vécu sur terre. L'hégémonie romaine était un peu comme la mondialisation. Le développement économique profitait à la classe dirigeante vivant à Rome. Jésus a pris position. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ne rendez pas le mal pour le mal. Pardonnez jusqu'à 7 fois 77 fois. Voilà une partie des paroles de Jésus. Pour entrer dans cet univers du shalom biblique, c'est l'Église, notre Église, nos Églises qui doivent poser des signes et prendre position sans ambiguïté. Le projet de Dieu comprend évidemment le salut des individus, mais le projet de Dieu est plus large. C'est la bénédiction de toutes les familles de la terre. La mission comme réconciliation se comprend dans le cadre de ce grand projet qui est la mission de Dieu. Et dans ce grand projet, il y a un élément communautaire très important. L'accent contemporain sur la justification et le salut de l'individu peut nous faire oublier que Dieu a appelé Abraham pour former un peuple. Le péché, conçu en termes individuels, peut nous laisser oublier les conséquences sociales de la chute. Les hommes ne savent pas vivre ensemble. Le vivre ensemble a besoin de guérison, de rédemption, de réconciliation. Et pour cela, nous devons nous rappeler que les chrétiens sont aussi un peuple, peuple d'alliance, peuple de la nouvelle alliance. Le baptême, loin d'être un acte de témoignage individuel, nous introduit dans un peuple nouveau où la paix de Dieu doit devenir notre réalité, et pas seulement lors de nos expériences spirituelles. Pour conclure, nous lirons dans Éphésiens 2, les versets 13 à 17. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang de Christ. C'est lui en effet qui est notre paix. Ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine, Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. L'Église, communauté de paix, de pardon, de réconciliation, est le signe concret du projet de Dieu dans le monde aujourd'hui. La mission de réconciliation vise la création et l'existence de communautés de réconciliation qui vivent ce projet de Dieu de manière visible face au monde d'aujourd'hui en ce début d'année 2016. Amen. Amen.